Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Vous écoutez Radion, il est 11h passé de quelques minutes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission littéraire. Je suis ravi de vous retrouver en ce samedi 11 avril 2026 pour la deuxième et dernière partie du compte-rendu du Salon du Livre Régional de Chalot. La première partie vous a été proposée la semaine dernière et je reviens sur ce Salon du Livre Régional de Chalot. D'abord, je rappellerai au passage, cela me semble essentiel, que Chalot est une petite commune, 83 habitants, située dans la Nièvre. Et pour faire simple, Chalot se situe à vol d'oiseau à 20 km au sud d'Avallon. Une vingtaine d'auteurs étaient invités par ce salon organisé par l'association Chalot au fil des pages. Alors cette association qui est présidée par Frédéric Bigorgne et qui rassemble 23 membres a créé la bibliothèque de ce joli petit village entouré de pâturages, de forêts et traversé par cette petite rivière qu'est le Chalot. Cette association organise donc aussi chaque année un salon du livre régional. Et en cette année 2026, il a eu lieu le 22 février dernier. Et bien sûr, nous nous y sommes rendus parce que nous y étions invités. Et de plus, je dois reconnaître que nous y avons été chaleureusement accueillis. Au cours de ce wagon livre, vous aurez l'occasion d'entendre Marc Potet. Marc Potet, qui est l'auteur des Inconnus célèbres de Domcy-sur-Cure, commune de Lyon située, allez, au sud de Vézelay et très proche de la Nièvre. C'est un passionné de généalogie et qui notamment nous expliquera qu'à Domcy-sur-Cure, dans cette petite commune de Lyon, eh bien, il y avait la nourrice d'une poétesse auxerroise bien connue. Je veux parler de la Joachim qui était la nourrice de la petite Marie-Noël. Et puis vous y apprendrez également, parmi beaucoup d'autres informations, que Serge Gainsbourg, alors qu'il se logeait souvent à Saint-Père-sous-Vézelay, chez Marc Menot à l'Espérance, eh bien Serge Gainsbourg a failli acheter un moulin sur la commune de Domcy-sur-Cure. C'est à découvrir dans notre wagon livre aujourd'hui avec Marc Potet. Nous aurons l'occasion d'évoquer le peintre Camille Corot, notamment avec Jean-Louis Mucchielli, qui est le président de l'association des Amis de Corot en Morvan, association qu'il a créée il y a 2 ans et demi et qui compte une 60aine d'adhérents. Jean-Louis Mucchielli est professeur, était, parce qu'aujourd'hui il est à la retraite et il habite à l'Orme, il était professeur honoraire à l'université Paris-Sorbonne, il l'a été durant 30 ans, et il reviendra sur le lien amoureux et esthétique entre le peintre Camille Corot et le Morvan, notamment les environs de l'Orme, Saint-André en Morvan, mais également ce mur en Aussois. Camille Corot, c'est 3000 tableaux, des milliers de dessins et des peintures, notamment, qui sont exposés au Metropolitan Museum à New York. Alors, avec Jean-Louis Mucchielli, nous reviendrons sur la carrière, le destin et surtout Corot et ce lien affectif avec le Morvan. Mais nous allons ouvrir notre wagon livre avec un sujet qui plaît et qui retient toujours beaucoup l'attention et l'affection, je dirais. Nous allons parler des nourrices du Morvan en compagnie de Noël Renaud. Noël Renaud qui, depuis de très nombreuses années, plus de 40 ans, travaille sur les nourrices du Morvan. Elle signe un nouvel ouvrage intitulé « Nourrice du Morvan » et d'ailleurs, puisque Noël Renaud s'est intéressé au phénomène des nourrices en Europe, en Italie, en Espagne et même sous d'autres latitudes, puisqu'elle a même mené des recherches à l'île de la Réunion. Sans tarder, je vous propose de faire connaissance avec Noël Renaud que nous avons rencontré et enregistré au Salon du Livre de Chalot, c'était le 22 février dernier.
Je m'appelle Noël Renaud, je suis donc originaire du Morvan. Je suis née sur la commune de Monceau-Chelet-Sétton, dans un tout petit moulin à grains. Et depuis 46 ans, je m'intéresse aux nourrices du Morvan. Pourquoi ? En 1980, j'avais commencé mon arbre généalogique et je suis tombée tout de suite sur les nourrices de ma famille. Mon arrière-grand-mère était partie nourrice et 20 ans avant, sa mère, ma trisaïeule, était également partie nourrice. Donc, ça a fait un peu boule de neige et pendant 10 ans, j'ai collecté en Morvan et ailleurs et au bout de 10 ans, je me suis retrouvée avec pas mal de documents, de photos, de carnets de nourrices, des enregistrements, des anecdotes. Et j'ai fait un premier ouvrage qui a bien marché. Mais évidemment, quand on écrit un livre sur les nourrices, les gens vous disent « Oui, j'ai vu votre ouvrage, il est pas mal, mais dedans, il n'y a pas ma grand-mère ni mon arrière-grand-mère. » Donc, depuis 46 ans, je sillonne le Morvan pour collecter des documents. Et je vais également dans les châteaux pour vérifier si ce qu'on m'a raconté en Morvan est exact. Et donc ces gens-là sont très coopératifs aussi. Et je retrouve des fois dans les châteaux des documents qui ont été perdus en Morvan.
Alors l'an dernier, en 2025, est paru aux éditions enfin, de oui. l'association Mémoire Vivante du canton de Carré-les-Tombes, Nourrice du Morvan et d'ailleurs. Alors là encore, Noël, vous avez découvert de nouvelles nounous qui s'étaient cachées dans les archives, dans les photographies, alors, dans les certificats oui, familiaux, alors, conservés peut-être sans même le savoir d'ailleurs.
Oui, je n'ai pas encore eu le temps de chercher dans les archives parce que je retrouve tous ces documents en Morvan. Et il y a donc depuis, là c'est le 9e ouvrage et qui contient les 50 dernières nourrices que j'ai retrouvées, avec bah, toujours pareil, des photos, etc. Et je me suis aussi intéressée aux nourrices d'ailleurs. Donc en Espagne, en Italie, dans l'île de la Réunion, il y a eu le même phénomène qu'en Morvan. Donc des régions très pauvres d'Italie, d'Espagne, on envoyait de ces régions des nourrices à la cour, à Madrid, à Rome, etc. Et c'est le même phénomène que les nourrices du Morvan qui partaient à Paris ou partout ailleurs dans le monde.
Alors, parmi les nourrices qui sont évoquées, il y a Claudine Lamoureux, nourrice de Marigny-l'Église. Donc, on est dans le sud de Lyon, là.
Oui, mais on est dans la Nièvre.
On est dans la Nièvre, là. Marigny-l'Église, on est dans la Nièvre. Et alors, elle va devenir la nourrice sèche d'un petit garçon qui est devenu très célèbre.
Voilà. Alors, nourrice sèche, ça veut dire qu'elle n'allait pas, mais elle va s'occuper de Pierre de Coubertin, le célèbre Pierre qui va rénover les Jeux Olympiques, bien entendu. Donc, elle va aller surtout en Normandie, puisque la famille de Coubertin possède le château de Mireville. Donc, elle va séjourner là pendant plusieurs mois. Et puis, longtemps après, Pierre de Coubertin va écrire à son ancienne nourrice pour lui demander si elle ne connaît pas dans son village une nourrice qu'il voudrait employer pour l'enfant que sa femme attend dans les mois qui vont arriver.
Alors, vous reproduisez d'ailleurs la lettre date de 1895, c'est-à-dire que Pierre de Coubertin, en 1895, il a 32 ans. Il est mort en 1937. Oui. Voilà. Et donc, il demande
à... Il demande à son ancienne nourrice qu'elle lui recommande quelqu'un.
Alors, et il l'appelle pas Dadine.
Si... Dadine.
C'est Claudine et il l'appelle Dadine. Donc, Claudine Lamoureux, avec une photographie d'ailleurs, on voit Pierre de Coubertin en famille avec son épouse Marie et leurs enfants.
On le voit enfant, donc j'ai pris contact avec la famille de Coubertin qui m'a prêté deux photos. Pierre petit et puis Pierre marié avec ses enfants.
Alors il y a une autre nounou, alors qui elle est originaire là, du sud du département de Lyon puisque c'est Saint-Léger-Vauban, c'est Françoise Léonie Pompon.
Oui, alors une nourrice qui a fait plusieurs familles, elle a été dans une branche Rothschild, après elle va chez les deux Bernice, chez les deux RL, donc elle va rester plusieurs années loin de chez elle.
Et alors, elle a aussi eu la garde de Geneviève Thibault.
Oui, la petite Geneviève Thibault qui, elle, va épouser un monsieur de Chambure, donc une famille très connue en Morvan. Et là, on a vraiment beaucoup de documents de la part de la famille de la nounou et puis des descendants de Chambure qui ont prêté aussi des documents.
Alors, concernant les nounous espagnols, finalement, on les rencontre dans des provinces espagnoles pauvres, tout comme le Morvan a été longtemps une terre pauvre,
très pauvre,
très pauvre, et où les femmes étaient obligées de se vendre, de vendre leur lait.
Donc elles avaient, les Espagnoles et les Italiennes, c'était exactement le même phénomène qu'en Morvan. Donc la province de Cantabrie, au nord de l'Espagne, la Galice, l'Estramadure, donc envoie des nourrices à la cour d'Espagne, etc.
Et en Italie, alors là aussi, la sélection est très sévère.
Oui, alors surtout la région de Venise. Donc j'ai pris contact, il y a aussi un musée au nord de Venise où il y a toute une salle avec des documents qui concernent ces très belles nourrices également, qui ont des très beaux costumes, comme les Espagnols. Elles ont des costumes vraiment superbes, des bijoux superbes, des montres en or, les épingles en or, des colliers en corail. C'est vraiment extraordinaire ce qu'on peut retrouver comme document.
En Italie, il y a une famille richissime et célèbre, puisque c'est elle qui a créé la Fiat. Hein,
la famille Agnelli a employé
des nourrices.
Des nourrices.
De même que la célèbre Gina Lolo Brigida, oui, a confié un de ses enfants à une nounou.
À une nounou qui a allaité le petit garçon qui était né en 1949.
Alors, ce qui est intéressant aussi, Noël, c'est que vous vous éloignez un peu du Morvan en dénichant donc des nourrices à l'île de la Réunion.
Oui, là, ça s'est fait par hasard. Des amis qui étaient en vacances là-bas m'ont ramené un petit fascicule et qui raconte l'histoire des nounous de l'île de la Réunion. Donc, les familles de planteurs, les familles aristocrates employaient dans l'île de la Réunion des nénènes. On les appelle des nénènes, ce sont les nounous. En général, elles étaient noires et elles restent aussi très longtemps dans les familles.
Alors, ce phénomène des nourritures, parce qu'on appelle ça ce phénomène des nourritures s'étale de 1870 et finalement à l'île de la Réunion jusqu'en 1950.
Oui.
En France, les nounous, il y en a eu dans les années 50?
Ah non. Alors nous, les nourrices qui allaitent, la fin, c'est 1920-1922. Puisque la guerre de 14 est passée par là, donc dans les châteaux et hôtels particuliers, on n'a plus les moyens d'embaucher cochers, jardiniers, femmes de chambre, etc. Et puis à cette époque-là, les médecins vont conseiller aux femmes de l'aristocratie, ça serait peut-être mieux qu'elles allaitent elles-mêmes leur bébé. Et donc ça va devenir aussi plus à la mode. Donc ça va être la fin des nounous du Morvan.
Est-ce que ces nourrices contraintes de quitter parfois leur propre bébé, de le confier à
une grand-mère paternelle,
quitter la famille, le pays, avec la nostalgie que cela peut être, la douleur de la séparation, quand on n'a jamais connu que sa chaumière morvandelle. Est-ce que ces nourrices ont été heureuses, Noël?
Oui. Oui, franchement, et quand on a goûté au château, aux hôtels particuliers, on n'a pas trop envie de revenir dans le Morvan au bout de 2 ans. Parce qu'il faut retrouver le mari qu'on n'a pas vu pendant 2 ans, la belle-mère qui souvent a repris les enfants et puis son fils, le mari, c'est elle qui commande. Donc quand elles reviennent en Morvan au bout de 2 ans, il y en a beaucoup qui n'ont qu'une envie, c'est avoir un autre enfant et repartir. Elles vont bien sûr voyager, toutes ces familles, elles vont apprendre des langues étrangères, elles vont avoir des notions d'hygiène, de luxe, et j'en ai beaucoup qui ne reviennent pas.
Alors, donc certaines ne reviennent pas, et est-ce à dire que quand elles reviennent, le couple vole en éclats?
Assez souvent. Alors bon, c'est vrai que c'est un peu difficile d'enquêter sur les relations que le couple avait quand la nounou revient de Paris ou d'ailleurs, mais on sait que ça se passait assez mal. Et surtout au niveau des enfants, l'enfant qui a été privé de sa maman pendant 2 ans, qui a grandi, et quand la maman revient, ils ne la connaissent pas.
Elle est une inconnue.
Ils ont souvent peur de cette grande femme qui arrive chez eux. Et on sait que beaucoup d'enfants ont été traumatisés par cette séparation, puisque maintenant, on sait que les 3 premières années de l'enfant sont quand même très importantes, et on aura des répercussions sur le caractère de certains enfants que j'ai rencontrés aussi, avec des caractères très, très renfermés, très taciturnes, parce qu'ils ont manqué souvent d'affection.
Noël Renaud, d'autres collectages sont encore possibles ?
Oui, alors moi je suis quand même très étonnée, puisque j'en suis à ma 622e nounou en 46 ans, et depuis ce dernier fascicule de septembre 2025, j'en ai retrouvé déjà une dizaine, qui ne sont pas dans le livre, évidemment. Mais bon, je ne sais pas s'il y aura un dixième ouvrage.
À l'instant, c'était Noël Renaud, enregistré le 22 février dernier lors du Salon du Livre Régional de Chalot. Je rappelle le titre de l'essai, de celle que vous avez pu entendre il y a quelques minutes, « Nourrice du Morvan et d'ailleurs ». C'est paru aux éditions Mémoire vivante du canton de Carré-les-Tons. Vous pouvez facilement vous procurer l'ouvrage. Alors bien sûr, vous pouvez l'acheter lors des conférences de l'auteur ou lorsque vous rencontrez l'auteur dans les salons. Et puis si vous ne rencontrez pas Noël Renaud, eh bien c'est très simple. Via Internet, vous vous rendez sur le site de l'association Mémoire vivante du canton de Carré-les-Tons et vous avez la possibilité de commander l'ouvrage et de le recevoir chez vous. Juste après la virgule musicale que nous allons vous proposer, toujours enregistrée au Salon du Livre de Chalot le 22 février dernier, nous aurons l'occasion de nous entretenir avec Marc Potet, qui a déjà sorti un certain nombre d'ouvrages, notamment deux tomes consacrés aux inconnus célèbres du canton de Carré-les-Tombes. Et puis, il a également signé une passionnante biographie consacrée à un personnage, un pittoresque morvandio né à Carré-les-Tombes. C'est le docteur Dupré, un morvandio extraordinaire. C'est également aux éditions des Mémoires vivantes du canton de Carré-les-Tombes. C'est Wagon Livre sur Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. On se retrouve avec Marc Potet juste après l'intermède musical que nous vous proposons. Émission littéraire. Le 22 février dernier, nous avons fait de belles rencontres lors de la troisième édition du Salon du Livre Régional de Chalot. Je rappelle que c'est un salon qui est organisé par l'association Chalot au fil des pages que préside Frédéric Bigorgne. Je voudrais d'ailleurs la remercier et la saluer très chaleureusement, ainsi que son mari Jean-Paul, et puis la vingtaine de bénévoles qui nous ont accueillis avec beaucoup de gentillesse et de sympathie. Au cours de ce salon, nous avons également tendu notre micro à Marc Potet. Marc Potet est professeur agrégé de mathématiques, il est également maire de Domcy-sur-Cure, il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment deux tomes consacrés aux inconnus célèbres du canton de Carré-les-Tombes. On lui doit également une biographie d'un pittoresque morvandio, un personnage extraordinaire, un homme du 19e siècle, le docteur Dupré, né d'ailleurs à Carré-les-Tombes. Et puis, nous allons, cette fois-ci, découvrir quelques inconnus célèbres de Domcy-sur-Cure, cette petite commune au sud d'Avallon et qui, effectivement, au sud de Lyon, pas très loin de la Nièvre. Sans tarder, je vous propose de faire connaissance avec Marc Potet.
Je m'appelle Marc Potet, je suis président de l'association Mémoire vivante. À ce titre, j'ai écrit 4 livres. Qui sont à propos du Morvan. Sinon, dans la vie civile, je suis professeur agrégé de mathématiques au lycée de Clamecy, depuis 30 ans. Et j'ai aussi une autre fonction, je suis maire de Domcy-sur-Cure depuis une dizaine d'années.
Alors justement, nous allons nous arrêter à Domcy-sur-Cure. Donc on est vraiment sur la fin du département de l'Yonne.
Oui, c'est la frontière de l'Yonne et la Nièvre. De mes fenêtres, je vois la Nièvre, donc c'est vraiment tout près.
Alors, une grande commune que Domcy-sur-Cure avec moult hameaux.
Oui, alors c'est une grande commune qui est relativement peuplée pour notre petite région. Il y a plus de 400 habitants. Nous avons 6 gros hameaux sur un territoire de 20,47 km², donc vraiment une grosse commune.
Alors, au nord, on a Pierre-Pertuis et puis au nord-ouest, donc Vézelay. Et puis les terres de Bazoches et de Vauban ne sont pas loin.
À tout près, oui. Vauban a fait plusieurs arrêts à Domcy-sur-Cure. On le voit dans les registres de temps en temps. Il est parrain d'un petit de Jaucourt, où la famille qui habitait le château de Domcy.
Alors Marc Potet, l'année dernière, nous avions eu le plaisir de vous enregistrer dans la salle des fêtes de
Domcy,
de
oui.
Domcy, pour une conférence autour d'un pittoresque personnage né à Carré-les-Tombes, qui fera une grande partie de sa carrière à Paris, c'est le docteur Dupré. Je renvoie nos auditrices et auditeurs, sur le podcast de Wagon Livre. Cette conférence a été diffusée dans son intégralité, avec votre accord en deux parties, et des interventions, des lectures de poèmes de Dupré et des chansons.
Voilà, oui, c'était vraiment un bon moment. Les auditeurs, les spectateurs ont beaucoup apprécié.
Et alors, on mentionnera aussi, sous votre plume, les inconnus célèbres du canton de Carré-les-Tombes, deux tomes, et puis... plus récemment, donc, les inconnus célèbres de Domcy-sur-Cure.
Voilà,
23 portraits.
23 portraits de personnages qui ont marqué l'histoire de la commune et même certains, l'histoire nationale.
Alors, il y a bien sûr aussi un coup de projecteur sur des lieux. Je pense à la saga du moulin de Bringem. Alors, la Bringem, c'est une petite rivière qui prend sa source à l'Orme, donc dans la Nièvre voisine, et qui traverse Domcy-sur-Cure.
Voilà, la Bringem fait la frontière entre Domcy-sur-Cure et Saint-André-en-Morvan sur 5 ou 6 kilomètres et se jette dans la Cure très peu de temps après.
Alors, il y a une légende avec un moulin sur la Bringem dont le bâtiment existe toujours, il n'a plus la roue.
Il y a plus la roue depuis à peu près un siècle. Le moulin existe toujours. Il est habité par des résidents secondaires. C'est un très bel endroit.
Alors, il y a une légende selon laquelle un jour, c'est Jean Collin qui tenait ce moulin et qui s'aperçoit un jour que son moulin fait de la farine toute rouge.
Voilà, c'est une légende du 19e siècle. Les Collins ont tenu le moulin, la famille de Jean Collin a tenu le moulin pendant plus de 200 ans. Et donc, c'est un fait qui m'a semblé un peu incroyable. Donc, je le raconte dans mon livre avec un diable qui tape sur la roue du moulin pour faire sortir, pour que la farine redevienne blanche. Enfin, c'est très intéressant.
Et dans les années 80, il y a un célèbre chanteur français qui aurait peut-être aimé s'y installer dans ce moulin.
Voilà, Serge Gainsbourg a séjourné pendant plusieurs mois à Saint-Père. Donc, il était hébergé chez Menot. Et donc, il a découvert le petit moulin de Bringem et il voulait absolument l'acheter. Mais la propriétaire du moulin a trouvé qu'il était vraiment trop mal habillé. Elle n'a pas voulu le recevoir.
C'est amusant parce qu'en plus, il y a à votre ouvrage, dont je rappelle le titre, hein, « Les inconnus célèbres de Domcy-sur-Cure », il y a une préface de l'ancien maire qui n'est plus de ce monde.
Malheureusement, oui.
Et qui, effectivement, lui aussi, raconte que la Céline, à l'époque, qui vivait dans le moulin, elle a peut-être même pas bien su qui était ce
voilà,
chanteur.
Elle ne savait pas qui était exactement Gainsbourg. Et puis, elle l'a congédié assez vite, quoi, parce qu'elle trouvait qu'il était mal habillé, mal rasé. Donc, elle supportait pas ça.
Alors, il y a un portrait d'un notaire et historien, Louis-Étienne Charpillon, né en 1817, disparu en 1894. Cet homme est très proche. Alors, il n'est pas natif de Domcy-sur-Cure, il n'est même pas natif de Lyon, mais il mène une certaine vie à Paris où il a pour camarade et ami le romancier, l'écrivain Alexandre Dumas.
Voilà, il s'est lié d'amitié avec Alexandre Dumas. Alors qu'Alexandre Dumas faisait sa campagne électorale pour devenir député aux élections de 1848. Donc à ce moment-là, le notaire Charpillon, puisqu'il était notaire, habitait à Saint-Brie-le-Vineux. Et c'est là qu'il a rencontré Alexandre Dumas et qu'il l'a aidé à faire sa campagne. Alexandre Dumas n'a pas du tout été élu. Il n'était pas originaire de Lyon, il n'a pas eu tellement de voix.
Alors Louis-Étienne Charpillon connaît bien le maire de l'époque, le maire de Domcy-sur-Cure, qui s'appelle Jean-Louis César Guyard.
Oui. Voilà, donc Louis-Étienne Charpillon connaît Guyard. Il va acquérir sa maison. Et donc, dans la maison qui existe toujours, on l'appelle la Maison Rose, elle est située juste à côté du pont de Cure. Eh bien, il héberge Alexandre Dumas. Ils vont ensemble chasser, ils font des beaux repas très arrosés avec d'accortes servantes, comme Alexandre Dumas faisait partout. Il menait la grande vie, il dépensait, et même il a largement entamé la fortune du notaire.
Alors il faut aussi, là ce qui est exceptionnel, c'est qu'on apprend en vous lisant Marc Potet que donc le romancier Alexandre Dumas, dans la cabane du jardin attenant à la maison de Guyard, donc à Domcy-sur-Cure, retouchait ses manuscrits. C'est
voilà,
exceptionnel.
Il a écrit quelques manuscrits dans la petite cabane qu'on voit encore de l'autre côté de la route.
Voilà, alors Charpillon est mort en 1894. Alexandre Dumas est mort 24 ans plus
bien
tôt,
avant,
hein,
oui.
C'est ça, en 1870.
Il avait nommé Charpillon comme légataire universel.
Et en fait, cette maison rose a ensuite été acquise par une famille importante aussi de Domcy et dans le département de Lyon, enfin sud de
voilà,
Lyon.
Voilà, elle a été acquise par Pierre-Étienne Flandin, qui a été président du Conseil sous la Troisième République.
Alors, il y a d'autres personnages hauts en couleur, notamment une femme, c'est Marie-Louise Joachim, née en 1800.
On dit Joachin.
Joachin, pardon. Joachin, 1849, est morte en 1924. Alors, elle est originaire de Domcy.
Ah,
elle est d'Uzy,
Elle habitait à Uzy, oui. Donc, une petite maison, la dernière maison sur la route de Menade, dans la rue des Tréhauts.
Alors, pourquoi rentre-t-elle dans l'histoire, d'une certaine manière?
Eh bien, c'était la nourrice de l'écrivain Marie-Noël. Donc, vous savez, à ce moment-là, les nourrices morvandelles étaient très renommées. Donc, la famille de Marie-Noël a cherché une nourrice et donc a engagé Marie-Louise Joachin.
Et alors, ce qui est incroyable, c'est que, bien sûr, la Marie-Louise quitte Uzy pour aller chez les Rouget, puisque Marie-Noël s'appelle
Auxerre, oui.
Rouget à Auxerre. C'est rue Saint-Pierre en Château, pas très loin d'ailleurs de la cathédrale. Et puis, on le sait, hein, il suffit de lire Petit Jour, Marie-Noël est venue en vacances avec son petit frère et même parfois ses parents à Uzy, chez la nourrice.
Voilà, elle a gardé toute sa vie des contacts avec la famille de sa nourrice. Jusqu'à sa mort, presque jusqu'à sa mort, elle est venue à Uzy plusieurs fois par an même.
Alors, il est vrai que la petite Marie-Noël allait aussi à Villiers-Nonain, qui est une commune de Saint-Branché, à une quinzaine de kilomètres d'Avallon. Et dans Petit Jour, Marie-Noël parle du monastère de la Pierre qui vire, des bords du Cousin et des étangs de Marot.
Voilà, les Joachins avaient de la famille aussi à Villiers-Nonain.
Et cette pauvre Marie-Louise a été blessée par une vache un petit peu en furie.
Bah, la pauvre, elle a eu une vie misérable. Les femmes à cette époque-là, dans les fermes, avaient une vie difficile. Donc, elle a eu plein d'ennuis dans sa vie. Et puis, effectivement, elle est morte d'un coup de pied d'une bête.
Alors, il y a un personnage que vous mettez en valeur, qui est le fils de modeste cultivateur d'Uzy, donc hameau de Domcy-sur-Cure. C'est cet homme parti de rien qui devient colonel, c'est le colonel Touard, colonel d'artillerie coloniale. Alors, bien sûr, il a un superbe parcours en Indochine, enfin, dans ce qui est, à l'époque, les colonies françaises d'Extrême-Orient. Ce qui est magnifique, c'est que vous racontez, il revient passer sa retraite à Domcy-sur-Cure et il va trouver un bracelet antique Et en bronze.
Oui, dans un vieux tas de pierres, dans un merger. Il fouinait partout, il aimait bien se promener. Et donc, il avait trouvé un superbe bracelet ancien qui est conservé dans un musée maintenant.
Ça, c'est assez exceptionnel. Alors, ces recherches, vous partez sur des pistes. Comment vous les trouvez ?
Bon, là... Alors, il y a plein de façons. Il y a déjà les souvenirs de mes aïeux.
Parce que vous êtes originaire de Domcy-sur-Cure.
Voilà, ma famille maternelle habite à Domcy-sur-Cure depuis plus de 200 ans. Et puis, j'ai toute une lignée d'ancêtres à Domcy-sur-Cure. Donc, il y a tous les souvenirs de mes grands-parents, de ma mère. Et puis, parfois, c'est le hasard... Par exemple, j'ai trouvé un astronome qui est né à Domcy-sur-Cure en fouinant dans les vieux journaux que tout le monde avait oublié parce qu'il est parti en Argentine il y a plus de 100 ans. Donc, tout le monde l'avait oublié. Parfois, c'est par hasard que je trouve ces inconnus célèbres. D'autres fois, c'est en faisant des recherches dans l'histoire de la commune, dans les registres, dans les journaux, on trouve toujours des faits divers dans les vieux journaux. Et puis après, je remonte la piste.
Oui, ils viennent d'horizons très divers. Hein. Il y a des curés, il y a des maires, on a même un pilote automobile, il s'appelle Jean-Louis Marnat. C'est incroyable, cette diversité.
Oui, oui, c'est l'objectif un peu de ce travail. C'est montrer qu'il y a eu des gens remarquables de toutes sortes dans la commune. Avec effectivement une grande diversité, ça peut être du grand homme politique qui a eu un destin national, il y a Charles Flandin, un grand chimiste, à la petite fille dont j'ai retrouvé l'histoire, qui s'est fait manger par un loup en 1763.
À l'instant, Marc Potet, enregistré le 22 février dernier, lors de la troisième édition du Salon du Livre Régional de Chaloux. Je rappelle que si vous voulez vous procurer son dernier ouvrage, Les Inconnus Célèbres de Domcy-sur-Cure, ou les autres essais, notamment la biographie du docteur Dupré, ou Les Inconnus Célèbres du canton de Carré-les-Tombes, vous vous adressez à l'association Mémoire Vivante, à la mairie de Saint-Germain-des-Champs, 89 630. Je vous donne également le site internet mémoirevivante.org et puis un numéro de téléphone 03 86 34 23 33. Wagon Livre revient dans quelques minutes. On marque un nouvel intermède musical et puis, juste après, nous évoquerons le peintre Camille Corot, la rencontre de Corot avec le Morvan et nous ferons bien sûr connaissance avec Jean-Louis Mucchielli, aujourd'hui à la retraite, mais professeur honoraire à l'université Sorbonne durant 30 ans. Il est le créateur d'une association des amis de Corot en Morvan. C'est à découvrir après la virgule musicale que nous vous proposons. C'est Wagon Livre, votre émission littéraire sur Radion. Nous revenons d'ici quelques minutes et merci d'être avec nous.
Ohio.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Nous avons vraiment fait de belles rencontres le 22 février dernier lors du Salon du Livre Régional de Chalot, notamment avec Jean-Louis Mukiedi, parce qu'avec lui, il est le président de l'Association des Amis de Corot en Morvan, et c'est l'occasion de revenir sur ce peintre qui a réalisé 3000 tableaux et des milliers de dessins. Alors, Jean-Louis Mukiedi est l'auteur en 2024 de Camille Corot et sa Dame de cœur en Morvan, en 2025 Camille Corot et le Grand Tour du Morvan à Venise, et en cette année 2026, Jean-Louis Mukiedi signe « Quand le peintre Camille Corot et le maréchal de Vauban se rencontrent, que se raconte-t-il » Eh bien déjà, lorsque je rencontre Jean-Louis Mukiedi, je lui demande de se présenter et faisons connaissance sans tarder avec lui. Nous l'avons donc rencontré le 22 février dernier lors de la troisième édition du Salon du Livre Régional de Chalot.
Je m'appelle Jean-Louis Mukiedi, je suis président de l'association Les Amis de Corot en Morvan, que j'ai fondée il y a maintenant 2 ans et demi et qui compte une soixantaine d'adhérents. Je suis professeur honoraire à l'université, j'ai exercé à la Sorbonne pendant 30 ans, et en arrivant dans le Morvan, notamment à l'Orme, eh bien, j'ai eu la passion de Camille Corot qui m'a largement précédé et qui a fait de nombreuses peintures dans cette belle nature.
Alors, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, on mentionnera en 2024 Camille Corot et sa Dame de cœur en Morvan. L'an dernier, Camille Corot et le Grand Tour du Morvan à Venise. Et puis, plus récemment, en cette année 2026, quand le peintre Camille Corot et le maréchal de Vauban se rencontrent, que se raconte-t-il ? Un petit mot d'abord sur le peintre Camille Corot qui a traversé tout le 19e siècle, qui a peint des années 1820 jusqu'à sa mort en 1875. L'an dernier, on a donc fêté le 150e anniversaire de la disparition de Camille Corot. Mais 19e siècle est dominé par Delacroix et Ingres. Mais le succès de Corot va venir. Alors, ce qui nous intéresse, bon, évidemment, je suis très prudent avec vous, Jean-Louis Mukiedi, parce que vous pouvez être très bavard étant passionné. Je souhaiterais que nous nous attachions à cette parenthèse de Corot, parenthèse morvandelle de Corot. Comment se fait-il que Corot découvre le Morvan et notamment la petite ville de l'Orme dans la Nièvre ?
Alors oui, effectivement, c'est formidable qu'il ait découvert l'Orme. Et l'origine de cette découverte tient à la nièce, donc la fille de sa sœur aînée, qui s'est mariée avec le fils du maire de l'Orme, Monsieur Baudot. Elle s'est mariée en 1833. Et elle est donc arrivée pour les vacances dans le Morvan, à l'Orme. Elle a écrit à son oncle en lui disant « Mais venez donc, cher oncle, car ici, la nature est extraordinaire. »
Alors, Corot est célibataire, donc plutôt libre. Et en plus, il aime peindre. Il aime peindre dans la nature, c'est-à-dire peindre sur le motif.
Exactement. Corot est un fou de la nature. Il a peint dès les années 1822, dès que ses parents l'ont autorisé à être peintre parce qu'il voulait en faire un drapier. Il est allé à Fontainebleau, précédant largement l'école dite de Barbizon. Il avait comme patron et maître un jeune peintre absolument incroyable qui s'appelait Michalon, mais qui est décédé très tôt et qui lui avait dit « il faut aller dans la nature ». Donc, il avait peint Fontainebleau. Et évidemment, quand sa nièce lui dit de venir en Morvan, il réplique aussitôt.
Donc, il découvre l'Orme, qui est un village au milieu du 19e siècle, ouais. Mais avec un cadre environnant absolument superbe.
Voilà,
qui va lui faire donc produire des peintures qui aujourd'hui existent toujours, elles ne sont pas forcément en France.
Non, exactement, il découvre l'Orme, qui était un gros bourg de 3000 habitants, avec une vingtaine de bistrots quand même, à l'époque, d'auberges, et il va à pied dans tous les bois, sur tous les chemins, avec son carnet, il dessine, et puis il emmène ses toiles, ses couleurs, et il met son chevalet là près des gorges de Narvaux, il peint et effectivement toute cette période là a été méconnue puisqu'il ne vendait rien à l'époque, il avait une bourse de ses parents qui lui permettait de survivre, mais après c'est devenu des tableaux absolument magnifiques et reconnus dans le monde entier.
Juste avant l'enregistrement de notre séquence, Jean-Louis Mukeli, vous me disiez qu'il y a à New York, au Metropolitan Museum, une peinture de Corot, sobrement intitulée « View of Lorme ».
Et oui, et voilà, « View of Lorme » à New York, au Met de New York, vous vous rendez compte? Et le Metropolitan de New York a aussi d'autres peintures de Corot, des portraits, de très beaux portraits, une liseuse. Et on trouve aussi à la Royal Academy de Londres, ils ont 22 tableaux de Corot qui a permis à une des conservatrices qui s'appelle Sarah Ehring de faire un énorme livre de 400-500 pages sur les peintres du début du siècle, les peintres français du début du siècle. Eh bien, elle consacre 100 pages à Corot. Elle a fait analyser par rayon X tous les tableaux de Corot. Elle sait exactement combien de fois il est venu se remettre à la peinture sur tel tableau, ce qu'il a rajouté. Enfin voilà, quoi. Tout est une aventure extraordinaire.
Alors, l'œuvre picturale de Corot, 3000 tableaux?
Oui, 3000 tableaux, de nombreux dessins, plusieurs milliers de dessins. Et une chose extraordinaire, c'est que il a fait beaucoup de portraits. D'abord, il a commencé assez tôt à faire des portraits. Il a peint toute sa famille, ses amis. Et en fait, les nombreux portraits qu'il a fait, il y a un très grand nombre qui n'ont jamais été connus de son vivant, qui ont été découverts au moment de sa mort, quand on a mis en vente à Drouot une partie de son atelier. Là, on a découvert aussi que c'était un énorme portraitiste. Et il y a eu d'ailleurs, il y a 4 ans, à Marmottan, une exposition de Corot et ses portraits qui était fabuleuse.
Alors, les peintures, puisque Corot est un peintre paysagiste et vous l'avez dit, itinérant, un petit peu l'homme aux semelles de vent d'une certaine manière. Corot peint des portraits qui sont plutôt des grands formats, tandis que les peintures représentant les environs de l'Orme, puisqu'il y en a pas mal, ou ce mur en Aussois, on y reviendra, ce sont des petits tableaux.
Oui, alors Corot avait commencé à peindre des grands tableaux. Et d'ailleurs, en 1855, Napoléon III lui a acheté un tableau qui est au musée d'Orsay, qui est un chemin que vous pouvez voir, il est associé avec l'école de Barbizon. Mais il exposait aux Beaux-Arts tous les ans et les membres du jury lui disaient « mais vous peignez de trop grands tableaux, il faudrait faire plus petit, puis c'est un peu fumeux, brouillon, on voit pas très bien ». Donc au début il était assez mal apprécié et donc il en a tiré les leçons. Et de toute façon, quand on est itinérant, on peut pas se promener avec des énormes toiles, donc on est obligé de faire petit.
Le patronyme Corot, c'est vous qui me l'avez dit, Jean-Louis Mukeli, et puis ça a été également lu dans des articles dans le très beau magazine Vent du Morvan. Corot a des origines bourguignonnes. Enfin, c'est un patronyme bourguignon.
Tout à fait. C'est un patronyme qui vient des environs de Semur en Auxois. Corot est allé, il relate dans une lettre, un de ses amis, le fait qu'il est allé à Mussy-la-Fosse et ses environs. Donc, Mussy-la-Fosse, c'est un petit village qui est près de Semur en Auxois, et il entendait dans les champs et dans la nature, il entendait les gens appeler Corot, Corot, et il se retournait en disant « pourquoi on m'appelle, personne ne sait que je suis là ?» Et en fait, il s'est aperçu que beaucoup de gens là-bas s'appelaient Corot. Et donc, c'était un patronyme assez usuel, qui vient du Morvandio, qui est un diminutif. Donc, son patronyme est effectivement du Morvan, en tout cas de la Bourgogne.
Alors, formidable épisode au cours duquel Camille Corot va offrir une peinture à ce qui est à l'époque l'école de dessin de Semur en Auxois, en Côte d'Or, et qui aujourd'hui abrite le musée municipal de Semur en Auxois.
Oui, vous avez raison. Corot a peint une grande peinture allégorique avec une peinture qui se trouve dans la campagne près de l'Orbe, où un jeune garçon grimpe à un pommier et il y a deux jeunes filles en bas qui attendent les fruits. Donc on voit parfois ce type d'allégorie. Il a peint ça dans les années 1848. Dans les années 58, il va exposer à Dijon ce tableau avec d'autres tableaux parce qu'il faisait des salons de peinture dans les grandes villes de France. Ce tableau, il l'a pas vendu alors qu'il était déjà très connu en 1858 et il s'est dit ben Dijon c'est pas loin de ce mur qui lui-même est tout près de Mussy-la-Fosse, donc je vais aller l'offrir à l'école de peinture de ce mur. Et ce tableau maintenant est dans la grande salle du musée municipal de Semur en Auxois, où j'ai eu le plaisir de jouer une petite scénette représentant cette scène de Corot arrivant presque avec son tableau sous le bras, l'accrochant lui-même et le retouchant. Donc ça, c'est une histoire qui est véridique, qui est recensée dans le catalogue d'Alfred Robot, qui est le biographe de Robot, où on a le tableau avant et le tableau après retouche. Et d'ailleurs, ces retouches ont fait un peu craqueler le tableau, mais c'est une histoire tout à fait intéressante.
Jean-Louis Mucchielli, enregistré le 22 février dernier lors de la 3e édition du Salon du Livre Régional de Châlons. On va marquer un nouvel intermède musical et on le retrouve juste après. Je rappelle qu'il est le créateur et le président de l'Association des Amis de Corot en Morvan. Il signe en cette année 2026 un ouvrage intitulé « Quand le peintre Camille Corot et le maréchal de Vauban se rencontrent, que se raconte-t-il ? » C'est à découvrir juste après l'intermède musical que nous vous proposons, Wagon Livre, spécial Salon du Livre de Châlons. Nous sommes ensemble jusqu'à midi, toujours sur Radion.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Je vous propose de retrouver Jean-Louis Mucchielli, le président de l'Association des Amis de Corot en Morvan. Corot, Camille Corot, le peintre, auteur d'un très grand nombre de portraits, hein, puisqu'il y a certaines de ses peintures qui se retrouvent à New York, 3000 tableaux, des milliers de dessins, et pourtant le succès de Corot a été long à venir. Il faut dire, Jean-Louis Mucchielli, que le succès de Corot, finalement, débute à partir de 1855 jusqu'à sa mort en 1875.
D'abord, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Ingres meurt, Delacroix est sur la fin, et finalement toute cette montée des paysagistes, des naturalistes s'accroît, et Corot devient très célèbre. Donc 1855, c'est en fait l'exposition, la première exposition universelle établie par Napoléon III, où il reçoit la reine Victoria, qui vient d'Angleterre pour voir cette exposition. Et bien là, Corot, avec Théodore Rousseau, avec Millet, avec donc toute l'école de Barbizon, et bien il expose dans ce grand salon des beaux-arts, mais qui est inclus dans l'exposition universelle. Il expose ses tableaux, il est apprécié et il commence à vendre. L'empereur lui achète un tableau et donc là, le succès grandit.
Alors, il y a un peintre aussi, moi qui suis originaire du département du Doubs, je pense à Courbet qui aussi peignait beaucoup dans la nature, hormis le fait que Courbet a eu quelques engagements politiques, qu'il a payé d'ailleurs fort cher, contraint à l'exil. Corot, lui, n'est pas du tout frotté de politique.
Alors Corot, visiblement, ça ne l'intéressait pas. C'est ce qui l'intéressait, c'est d'être au calme, d'aller dans la nature, comme vous avez dit, de faire le tour progressivement. Plus il connaissait d'amis, plus il avait d'acheteurs, et bien finalement il allait loger chez eux, il faisait le tour de France comme ça. Il a rencontré Courbet. Courbet, à l'exposition universelle de 1855, il fait un stand à part. Courbet, il expose 40 œuvres. Donc Courbet est aussi très connu, il est plus jeune que Corot, mais effectivement, Courbet a un engagement politique qui lui a valu la prison, l'exode, et il a Courbet a une peinture plus sévère, disons, ils ont pas le même style, parfois plus scandaleuse. Mais Corot, lui, non, il veut peindre la nature. Voilà, sa belle nature, c'est l'amour de sa vie, finalement.
Jean-Louis Mucchielli, vous êtes auteur, mais vous êtes aussi le créateur d'un sentier découverte de l'œuvre de Corot à l'orme.
Exactement. Alors moi, je suis économiste de formation, j'ai beaucoup analysé les phénomènes d'attractivité territoriale et je trouve un petit peu désolant que des territoires qui sont un petit peu enclavés, qui sont moins connus que d'autres, n'arrivent pas parce que l'occasion se présente pas à valoriser un patrimoine mais que on appelle un patrimoine immatériel, un patrimoine culturel immatériel, c'est-à-dire qu'il ne se voit pas d'un coup comme on peut voir une église, un lavoir, et donc il faut révéler ce patrimoine immatériel à travers un médiateur finalement, donc je veux bien être le médiateur, et donc j'ai créé des stations tout autour de l'Orme où on voit des tableaux de Corot qui sont carrément dans le site où Corot les a imaginés et les a peints en partie, et ceci fait l'objet d'un sentier découverte que bon, moi je fais le guide bénévole volontiers, et par exemple ces deux dernières années, puisqu'on l'a inauguré l'année dernière mais je l'avais créé l'année d'avant, on a eu plus de 300 visiteurs qui vont dans les gorges de Narvaux, c'est 2,5 km de sentier, et qui voient un autre univers que uniquement la nature, qui voit maintenant la nature à travers l'œil de Corot.
Alors en juillet, par le biais de l'association des Amis de Corot en Morvan, en juillet à l'Orme, il y a grand événement.
Oui, il y a un grand événement qu'on fait depuis 4 fois en fait. On a fait un à Saint-André en Morvan, un événement sur des morceaux de vie de Corot dans le Morvan ou dans d'autres endroits. Donc on a fait effectivement l'année dernière Corot du Morvan à Venise, parce qu'il a écrit une lettre datée du 24 avril 1834 et qui est une lettre effectuée à l'Orme. Et donc, on raconte ce voyage en Italie. Tous les peintres essayaient de faire le grand tour en Italie à cette époque-là, parce qu'il y avait la lumière italienne et les peintres de la Renaissance. Et puis, cette année, je vais faire Corot sur les sentiers de la gloire, où Corot... Eh bien, on raconte l'histoire à partir de 1855, dont je viens de parler, jusqu'à la veille de sa mort. Et donc là, c'est un Corot qui va être rayonnant au niveau de l'histoire de l'art et que tous les amateurs d'art vont adorer.
En tout cas, l'Orme peut être heureuse de voir Corot être assimilé à cette jolie bourgade. Il y a eu aussi Henri Bachelin, qu'on a beaucoup oublié, l'écrivain et romancier Henri Bachelin.
Tout à fait.
Alors, il y a une association, les amis, Henri Bachelin.
Il y a une association, oui.
Est-ce que on peut aller jusqu'à dire que l'Orme est la deuxième ville de Corot ?
La deuxième ville de Corot, c'est ça ?
Oui.
Bon, Corot est tombé amoureux de la nature. Du Morvan, c'est clair. Il a peint à Saint-André, il a peint à l'Orme, il s'est approché un peu d'Avalon, il arrivait souvent de Paris par Clamecy, donc il a peint le Mont Sabot, par exemple. Il a vu tous ces paysages que moi j'aime photographier aussi. Donc, c'est un amoureux du Morvan. Ceci dit, après, comme sa nièce malheureusement est décédée très tôt, eh bien progressivement, comme il a eu énormément de connexions dans les autres régions, eh bien il a continué son tour de France et il s'est intéressé beaucoup au nord de la France. Il a eu un ami peintre qui était d'Arras. Donc il a fait beaucoup de chemin avec lui. Il est allé en Normandie, il est allé partout. Il est allé aussi sur les bords de la Seine, à Mantes, à Rosny, sur Seine, que j'ai eu l'occasion d'aller sur les pas de Corot dans ces deux villes très récemment. Donc Corot est amoureux de toute la nature finalement.
Alors dans quelle école picturale doit-on ranger Camille Corot?
Alors ça, c'est assez compliqué. Et je dois dire que malheureusement pour Corot, ça a contribué à le faire méconnaître, je dirais, en France. Parce que d'abord, il a peint de 1822 à 1875. Alors vous savez qu'entre le musée d'Orsay et le Louvre, il y a une espèce de frontière en 1850, quelque chose comme ça. Et donc ce qui est avant reste au Louvre, ce qui est après va à Orsay. Et donc tous les impressionnistes sont à Orsay, mais au Louvre il y a plus de tableaux de Corot qu'il y en a à Orsay. Et donc comme Corot ne s'est jamais revendiqué d'une école, il a fréquenté l'école de Barbizon, il a enseigné à Pissarro, il a donné des cours à Berthe Morisot, il a connu Manet dans sa jeunesse. Et que ses maîtres Bon, que ça soit Michalon qui est mort très tôt, que ça soit Bertin qui était un néoclassique qui voulait plus suivre en termes de nature, de peinture, eh bien, il est pas tellement classable et ça pâtit un peu à sa réputation, alors qu'à l'étranger, les gens s'en fichent un peu de dans quelle case on le met, et il est finalement plus connu à l'étranger qu'en France.
C'est un pré-impressionniste.
Voilà, c'est un pré-impressionniste, et il y a quand même de nombreux spécialistes de Corot qui se permettent de dire que c'est le principal pré-impressionniste, sauf que, vous savez, le problème qui est un problème technique, c'est que le tube de couleur n'a été inventé que dans les années 1850-1855. Donc avant, il fallait se trimballer avec de la couleur, on essayait d'écraser des pigments, et puis c'était beaucoup plus compliqué pour se promener en nature, et on avait moins d'éclat. Et ça, je raconte ça dans mon dernier livre, « Quand Corot rencontre Vauban ». Il raconte cette période où les impressionnistes sont arrivés aussi parce qu'ils ont pu utiliser des tubes de couleur et aller beaucoup plus facilement. Le tube de couleur et le train, je dirais, ça mettait Fontainebleau à portée de tous les peintres qui peignaient la nature.
Alors, je rappelle le titre de votre dernier texte, hein, « Quand le peintre Camille Corot et le maréchal de Vauban se rencontrent, que se raconte-t-il » Il ne parle pas que de tubes de peinture. Il parle du Morvan, il parle de
du mode du Morvan,
de vie.
Parce que dans cette fiction, je les fais rencontrer dans le Morvan, évidemment. Et là, le 4 juillet, on va les faire rencontrer au château de Bazoches même. Il parle du Morvan, mais il parle aussi de leur siècle. C'est-à-dire que quand ils se rencontrent par hasard et de façon totalement improbable, et que Corot dit à Vauban qu'il est peintre, maintenant bien connu, puisque je date la rencontre de 1869, juste avant 1870, eh bien, Vauban lui dit « Ah, mais oui, mais moi, je connais des peintres qui ont peint le portrait de Louis XIV, etc. » Et Corot lui raconte que lui, il peint la nature, il ne fait pas ses grands portraits.
À la Hyacinthe Rigaud.
Voilà. Et donc, il ne fait pas ses grands portraits. Et donc, ils ont un premier dialogue sur la peinture, où Corot lui raconte comment il peint. Et après, évidemment, ils ont un dialogue sur les fortifications de Vauban, ça va de soi, et sur la guerre, et comment Vauban a vécu toute cette période de la fin de sa vie en allant de fortification, en créant plus d'une centaine de villes fortifiées, et progressivement, comment Louis XIV a perdu un certain nombre de villes fortifiées. Et il y a un dialogue là qui s'engage assez intéressant, je trouve, sur la vie des soldats, la nature de la guerre, comment on va pouvoir vivre en paix. Et malheureusement, ces deux personnages se trouvent à la veille de 1870, à la veille de la guerre avec les Prussiens.
Jean-Louis Mucchielli, enregistré le 22 février dernier, lors du Salon du Livre de Chalot. Je rappelle le titre de son dernier essai, paru au début de cette année 2026, et qui a pour titre « Quand le peintre Camille Corot et le maréchal de Vauban se rencontrent, que se raconte-t-il ? » Je mentionne également Camille Corot et sa dame de cœur en Morvan, et puis en 2025, Camille Corot et le grand tour du Morvan à Venise. C'est presque la fin de notre wagon livre en ce samedi 11 avril 2026, spécial compte-rendu du Salon du Livre de Chalot. Je rappelle le titre de l'ouvrage de Noël Renaud que vous avez pu entendre au début de notre rendez-vous culturel, « Nourrice du Morvan et d'ailleurs », aux éditions Mémoire vivante du canton de Carré-les-Tombes. Et je rappellerai également Les Inconnus célèbres de Domcy-sur-Cure sous la plume de Marc Potet, également disponible à Mémoire vivante du canton de Carré-les-Tombes. Je rappelle que vous pouvez commander ces ouvrages sur le site internet mémoirevivante.org. Si vous avez manqué une partie de cette émission, ce n'est pas bien grave, vous la retrouvez d'ici quelques heures sur le site internet d'archives de Wagon Livre www.yannickpetit.fr. Vous y retrouvez également les références des ouvrages dont il a été question aujourd'hui. Je voudrais remercier les organisateurs du Salon du Livre de Chalot ainsi que tous les adhérents est membre de l'association Chalot au fil des pages, ainsi que sa présidente Frédérique Bigorgne, pour leur sympathique accueil, leur gentillesse et leur délicatesse. On a pu enregistrer ces reportages grâce à eux, bien au chaud, dans la charmante petite bibliothèque de ce village. Bibliothèque qui a été d'ailleurs créée et montée par l'association Chalot au fil des pages. Il se passe donc beaucoup de choses dans la Nièvre et même dans des tout petits villages de 80 habitants. Pour ma part, je tiens à dire qu'il se passe aussi des choses sur Radion, bien sûr, programme musical tout au long de cette journée. Et puis, surtout, vous n'oubliez pas qu'on se retrouve samedi prochain, 18 avril, toujours à 11h. Nous nous entretiendrons avec Charles Danzig, qui a fait paraître aux éditions Grasset un nouvel essai intitulé « Inventaire de la basse période ». Charles Danzig, que nous avons rencontré à Dijon le 26 février dernier, alors qu'il était l'invité au Grand Hôtel de la Cloche, il était l'invité du Club des écrivains de Bourgogne. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre écoute attentive et fidèle. Merci de nous être régulièrement attachés à ce programme. Et puis, je vous souhaite un excellent congé de fin de semaine. Au revoir et à samedi prochain.